الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة الرابع من شهر ربيع الأول عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثالث عشر من شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 11 novembre 2018 et nous voici dans le 13e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés dans la partie de ce livre où l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous enseigne les deux conditions de validité ou d'acceptation des actions que sont la sincérité et la conformité. Toute personne voulant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une quelconque action ou parole ou même croyance se doit en cela d'être sincère envers Allah et de ne rien vouloir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme elle se doit d'être conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve pour voir parmi nous qui sera le meilleur en œuvre, non pas qui sera celui qui fera le plus grand nombre d'œuvres, mais plutôt celui qui sera le plus sincère et le plus suiveur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que ces différentes appellations que sont at-ta'a, l'obéissance, al-ibada, l'adoration, al-taqwa, la piété, al-hasanat, bonnes actions, al-amal al-salih, et ainsi de suite, sont des appellations diverses qui désignent une seule et même chose, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité l'objection que pourraient émettre certaines personnes en disant « Si vous dites que tout cela concerne une seule et même chose, pourquoi alors nous remarquons dans certains versets que mention est faite de l'adoration et tout de suite après d'autres choses qui sont des adorations, comme le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » « C'est toi seul que nous adorons » et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Si vous dites que la demande d'aide est aussi une adoration, pourquoi alors elle a été citée après l'adoration, puisqu'elle en fait partie? Pareil pour le verset « Fa'abudhu wa tawakkal alayh » « Adore-le donc et place en lui ta confiance ». Si placer la confiance en Allah est aussi une forme d'adoration, pourquoi alors est-ce qu'elle a été citée après l'adoration, alors qu'elle en fait partie, et ainsi de suite. Et nous avons justement, nous avions commencé à expliquer la réponse à cela, en disant qu'il arrive que dans beaucoup de versets, on retrouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala va citer une généralité, notamment ici l'adoration, et tout de suite après, il va citer une des catégories de l'adoration de manière plus spécifique. Ceci pour montrer l'importance de cette chose spécifique dans cette généralité. Notamment ici, le fait de placer sa confiance en Allah dans l'adoration, c'est quelque chose de très grand. Le fait de demander l'aide à Allah dans l'adoration, c'est aussi quelque chose de très grand. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: la réponse à cela, à cette objection est qil hadha lahu nadha'ir kama fi qawlihi inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wal fahsha'u min al munkar wa kadhalika qawlihi inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ibn Taymiyyah rahimahullah va maintenant répondre à cela en disant: il y a beaucoup de versets similaires dans le Coran. Et il va en citer un très grand nombre. Versets similaires, similaires à ce principe-là qui est celui de citer une généralité et de la faire suivre d'une spécificité qui, à la base, faisait déjà partie de la généralité. Il donne en exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Certes, la prière empêche de commettre les turpitudes et le blâmable. Il nous dit, et les turpitudes font partie du blâmable. Mais ici, il y a une raison pour laquelle spécifiquement la turpitude a été citée. De même, dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba » Allah ordonne la justice, la bienfaisance. Allah ordonne la justice et la bienfaisance et le fait de donner aux proches. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي Tout comme il interdit la turpitude, le blâmable et l'injustice. Il nous dit وَإِتَاءُ ذِي الْقُرْبَى هُوَ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Donner aux proches fait partie de la justice et de la bienfaisance. Tout comme كَمَا أَنَّ الْفَحْشَاءُ وَالْبَغِيَ مِنَ الْمُنْكَرِ Tout comme la turpitude et l'injustice font partie du blâmable. Qu'est-ce que l'on remarque dans ces versets? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite des choses de manière générale et ensuite il cite d'autres choses qui à la base font partie de la généralité. Mais il les cite spécialement, spécifiquement. Pourquoi? Pour montrer que parmi toutes ces choses générales qui sont ordonnées par Allah, il y en a une qui s'appelle telle et telle, qui est très grande, qui est très importante, qui a une importance particulière pour ainsi attirer l'attention de celui qui va lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'importance de ce dont il parle subhanahu wa ta'ala. Ce principe est appelé par les savants « atful khassi ala al-am » faire à citer la spécificité juste après la généralité. Je répète, citer la spécificité juste après la généralité. Ce principe est retrouvé dans un très grand nombre de versets d'Allah, du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le cas de ce que vous venez d'entendre et d'autres versets que nous allons lire, incha'Allah ta'ala. Ainsi, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit « La turpitude et l'injustice font partie du blâmable. » Et dans le verset, on remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit la turpitude, le blâmable et l'injustice. Bien que la turpitude et l'injustice font partie du blâmable. C'est-à-dire que parmi les choses blâmables, il y en a deux que l'on appelle la turpitude et l'injustice qui spécialement sont citées pour montrer leur gravité par rapport à tout ce qui est blâmable. Bien que tout soit blâmable, ceci particulièrement. Donc Allah Azza wa Jal montre l'importance de la chose lorsqu'il cite une spécificité après avoir fait une généralité. Ça, c'est un principe que vous allez retrouver dans un très grand nombre de versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kadhalika qawlu walladhina yumassikuna bil kitabi wa aqamu s-salata. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché bien sûr, il nous dit et ceux qui se cramponnent au livre et accomplissent la prière. N'est-ce pas que celui qui se cramponne au livre va appliquer la prière? N'est-ce pas que celui qui a appliqué la prière ne l'a fait que parce qu'il s'est cramponné au livre d'Allah? Il s'est attaché au livre d'Allah, il l'a donc appliqué. Pourquoi alors est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le fait de s'attacher à son livre, ce qui sous-entend de l'appliquer? Et parmi ce que son livre nous ordonne d'appliquer, la prière, pourquoi est-ce qu'Allah cite particulièrement la prière? Pour en montrer la grandeur, pour attirer l'attention de celui qui va lire son livre et s'instruire dans son livre sur l'importance de cette prière. Et ça, on le retrouve dans un très grand nombre de versets. Le Shir Salah al-Fawzan, Hafidahullah, nous dit « L'application de la prière entre dans l'attachement ou le cramponnement au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Ce qui s'attache à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, a révélé. Tous les livres, au moment où ils sont révélés, ceux qui s'y attachent, ceux qui s'attachent au livre qu'Allah Azza wa Jal a révélé, vont appliquer ce que ce livre contient. Ils vont appliquer ce que ce livre contient. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit « Ya'ummu jami'a al-kutubi samawiyyati al-ilahiyya » Ce qui s'accroche à son livre, cette partie de verset, englobe tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. حَيْثُ إِنَّهَا كُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي لَفْظِ الْكِتَابِ Tous ces livres entrent sous la généralité du terme « el-kitab », le livre. Le livre dont Allah a parlé ici, subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِحَسَبِهِ فَبَعْدَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَارَ الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةِ Et après l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on parle de « el-kitab », du livre, il s'agit du Qur'an et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant son envoi, lorsque le mot « el-kitab » est utilisé ou cité, il s'agit des livres révélés au prophète avant lui. Donc, on voit dans ce verset l'importance de la prière. Il y a d'autres exemples encore. Celui où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa inna allaha aduwan lil kafirin » Quiconque est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et Mikal. Certes, Allah est l'ennemi des mécréants. Qu'est-ce que l'on retrouve dans ce verset? La mention des anges de manière générale. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour citer tout de suite après, parmi ces anges, Jibril et Mikal. Wa alaykoum assalam. Pour nous montrer que Jibril et Mikal, parmi les anges d'Allah, ont un rang particulier, une importance spécifique. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit ensuite wa kadhalika qawluhu innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa du'a'uhum raghaban wa rahaban min al khayrat wa amthalu dhalika fil qur'an kathir. Salam. Dans le verset, le sens rapproché, certes, ils s'empressaient vers le bien et ils nous invoquaient avec espoir et crainte. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, et l'invocation d'Allah Azza wa Jal avec espoir et crainte fait partie du bien. Allah Azza wa Jal a cité le fait qu'il s'empressait vers le bien, et tout de suite après, parmi ce bien vers lequel il s'empressait, il invoquait Allah avec espoir et crainte, subhanahu wa ta'ala, et les exemples de cela dans le Coran sont très nombreux. Le principe, c'est le fait de citer une spécificité après avoir cité la généralité. Ensuite, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit وَهَذَا الْبَابُ يَكُونُ تَارَةً مَعَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا بَعْضَ الْآخَرِ فَيُعْطَفُ عَلَيْهِ تَخْصِيصًا لَهُ بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِالْمَعْنَى الْعَامِ وَالْمَعْنَى الْخَاصِ. Il cite ici ce que l'on vient de dire tantôt, c'est-à-dire que citer la spécificité après la généralité, bien que cette spécificité fait partie de la généralité, je pense que vous avez compris avec tous les exemples qui ont été cités, Cela est fait pour montrer l'importance de la spécificité, bien qu'elle fasse partie de la première chose qui a été citée. Deux choses sont citées. Une est générale, l'autre est spécifique. Celle qui est spécifique fait déjà partie de la première qui est générale. Mais si Allah Azza wa Jal a cité cette spécificité après la généralité, c'est pour montrer que cette chose est réclamée par Allah de manière générale et de manière spécifique. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَتَارَةً تَكُونُ دِلَالَةُ الْإِسْمِ تَتَنَوَّعُ بِحَالِ الْإِنْفِرَادِ وَالْإِقْتِرَانِ فَإِذَا أُفْرِدَ عَمَّ وَإِذَا قُرِنَ بِغَيْرِهِ خَصَّ كَاسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ لَمَّا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ دَخَلَ فِيهِ الْآخَرُ وَلَمَّا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ صَارَ نَوْعَيْنَ. Il nous explique ici une autre des sagesses pour lesquelles on cite la spécificité après la généralité. La première que vous venez de comprendre, c'est montrer l'importance de la spécificité. Il y a maintenant d'autres raisons pour lesquelles on retrouve ce principe dans le Coran. Et parmi ces raisons, il y a le fait que certains mots dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont un sens lorsqu'ils sont cités de manière isolée, c'est-à-dire de manière seule, mais lorsqu'ils sont accompagnés d'un autre mot qui pourrait impliquer le même sens, alors que va-t-il se passer? Chacun va avoir son sens à lui. Mais ces deux mots-là, lorsqu'ils sont isolés, chacun prendra les deux sens. Mais dès qu'ils sont rassemblés, chacun prendra un sens différent de l'autre. Vous comprenez? Deux qui sont ensemble, chacun a son prénom. Mais dès lors qu'ils se séparent, chacun a deux prénoms, le sien et celui de l'autre. Comprenez cette phrase-là? Prenez l'exemple de deux hommes. Deux hommes qui marchent ensemble. Tu me dis, comment s'appellent ces deux hommes? Je te dis, celui-ci s'appelle Zayd et celui-là Ubayd. Les deux se séparent. Comment s'appelle-t-il le premier? Tu me dis, il s'appelle Zayd et Ubayd. Et comment s'appelle celui-là? Il s'appelle Zayd et Ubayd. Et il y a plein de mots comme ça dans le Coran qui sont cités de manière isolée, seule, et qui prennent donc un double sens. Et dès lors qu'ils sont rassemblés avec l'autre mot, le mot de l'autre sens, chacun prend son sens. On citera un exemple, avant de citer les exemples de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les termes islam et iman. Lorsque tu dis « el-islam », l'islam, cela englobe en lui le sens du mot islam et le sens du mot iman. Lorsque tu dis al-iman, la foi, al-iman, tout seul, ça veut dire l'islam et l'iman. Mais lorsque les deux mots sont cités ensemble, chacun a un sens. L'islam signifie les cinq piliers de l'islam et l'iman signifie les six piliers de la foi. Donc, les cinq piliers de l'islam sont l'attestation, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la prière, alayhi salatu salam, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. La foi a six piliers, la croyance en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Si tu dis al-islam, sans dire al-iman avec, qu'est-ce que ce terme veut dire? Il veut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Si tu dis Al-Iman, ça veut aussi dire tout ça. Si tu dis Al-Iman ou Al-Islam, là j'ai fait une coordination. J'ai dit la foi et l'islam. Alors là, la foi voudra dire les six piliers. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et l'islam signifiera alors les cinq piliers de l'islam. Quand tu dis Al-Birru wa Taqwa, n'est-ce pas qu'Allah Azzawajal nous dit dans le Coran wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa? On a traduit cela approximativement par entraidez-vous dans le bien et la piété. Le mot al-birr, quand il est avec le mot al-taqwa, il signifie les bonnes actions. Et le mot taqwa signifie le délaissement des péchés. Mais là, ils sont cités ensemble. Vu qu'ils sont cités ensemble, c'est pour cette raison qu'on a dit que le mot al-birr signifie les bonnes actions et taqwa le délaissement des péchés. Par contre, si on avait cité al-birr seul ou al-taqwa seul, chacun aurait pris tous les sens. Al-birr aurait voulu dire les bonnes actions et le délaissement des péchés. Al-taqwa seul veut dire la bonne action. Alaykoum salam. Les bonnes actions et le délaissement des péchés. Tout ça pour vous dire qu'il existe plusieurs termes dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent se ressembler. Mais s'ils sont réunis dans la phrase, ils se séparent dans le sens. Et si ils sont séparés dans la phrase, ils se réunissent dans le sens. Vous comprenez ça ? Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut retrouver dans le Coran le principe de citer ces deux choses coordonnées, telle chose et telle chose. Il va nous donner des exemples. Il nous dit le terme faqir et le terme miskin, qui tous deux veulent dire celui qui est pauvre. Lorsque tu cites al-faqir tout seul, lorsque tu cites al-miskin tout seul, le sens de l'un et de l'autre est le même. Parce que tu les as séparés dans le mot, dans la phrase, ils se sont réunis dans le sens. Par contre, si tu les réunis dans la phrase, ils se sépareront dans le sens. Et alors, l'un n'aura pas le même sens que l'autre. Al-faqir, comme nous dit le cheikh Saleh al-Fawzan, al-fuqara humul ladhina la yajiduna shay'an aw yajiduna ba'd al-kifaya. Al-faqir, qu'on va traduire par le besogneux, est celui qui ne trouve rien. C'est pour ça qu'on le traduit par le besogneux. Son besoin est très grand. Il est très pauvre. Il n'a rien. Il est plus pauvre que le miskin. Il est encore plus pauvre que le miskin. Alors que lui, le miskin, فَهُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَ نِصْفَ الْكِفَايَةِ أَوْ أَغْلَبَهَا. Le miskin est celui qui trouve la moitié de ce dont il a besoin. Ou un peu plus de la moitié de ce dont il a besoin. Donc si je dis, il faut aider le miskin, qu'est-ce que tu comprends? C'est le pauvre. Peu importe qu'il s'agit de celui qui n'a absolument rien ou de celui qui n'a pas assez. Mais lorsque je dis, il faut aider le faqir et le miskin, là je les ai unis dans la phrase, ils se sont séparés dans le sens. Le faqir, c'est celui qui n'a absolument rien, ou presque rien, et le miskin, c'est celui qui n'a que la moitié de ce dont il a besoin. Ça, vous avez compris ça? Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le Coran, on va retrouver telle chose et telle chose. Taïeb. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit ensuite, « وَقَدْ قِيلَ إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران فلا يكون من هذا الباب. Il nous explique que certains sont d'avis que lorsque l'on cite la spécificité après avoir cité la généralité, d'après eux, cette spécificité ne fait pas partie de cette généralité. Mais l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va nous démontrer que cela n'est pas correct. Il va y répondre avec des arguments. Il nous dit « wa tahqiqu anna hadha laysa laziman ». Et la parole juste est de dire que cela n'est pas, cela n'est pas exact, n'est pas correct. Pourquoi ? قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. Quiconque est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikal. Si l'on suivait cet avis-là, et l'on disait que la spécificité n'a rien à voir avec la généralité, cela voudrait dire que Jibril et Mikal ne sont pas des anges. Or, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Jibril et Mikal font partie des anges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى il nous dit aussi عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Dans le sens du verset, il nous dit et lorsque nous prîmes l'engagement des prophètes. Allah a pris l'engagement عز وجل de la part des prophètes. Ça c'est général. Les prophètes de manière générale. Tout de suite après, il dit « Et nous prîmes ton engagement, celui de Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. » Allons-nous dire que ces cinq prophètes cités ici ne sont pas des prophètes, ne font pas partie des prophètes ? La réponse est non. Donc cette parole est fausse. Comme le dit l'imam Ibn Taymiyyah, elle n'est pas correcte, elle n'est pas exacte. Rahimahullahu ta'ala. On retrouve aussi un verset où Allah Azza wa Jal nous dit « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. » Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, ce qu'il t'a révélé et ce qu'il a enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa. On retrouve les cinq prophètes encore. Et ces cinq prophètes-là sont les prophètes appelés par Allah Azza wa Jal, Ulul Azmi min ar-Rusul. Les prophètes doués, les messagers doués de fermeté. Et ce sont les cinq meilleurs prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit wa dhikru al-khassi ma'a al-ammi يكون لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام. Premièrement, il nous dit citer la spécificité après la généralité a plusieurs causes. Parfois, on cite la spécificité après la généralité car cette spécificité a quelque chose que l'on ne retrouve pas dans la généralité. Et le Cheikh Al-Fawzan nous donne en exemple la parole d'Allah Azza wa Jal « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » Observez assidûment les prières et la prière médiane. La prière médiane, c'est Salat al-Asr, la prière du Asr. Allah Azza wa Jal nous ordonne donc d'observer la prière et il nous cite la prière du Asr. Et Salat al-Asr a des spécificités que les autres n'ont pas. Et dans un hadith, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Man taraka salat al-Asr, faqad habita amalu. » Celui qui abandonne, délaisse la prière du Asr, ses actions deviennent vaines. La prière de Asr a une importance. Pendant la prière de Asr, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala descendent pour noter l'état de celui qui a reçu l'ordre de prier. S'il est en train de prier, il est noté. S'il n'est pas en train de prier, il est noté. Ça, c'est une spécificité qu'on ne retrouve pas dans le Maghrib, dans l'Isha, dans le Dhuhr. On la retrouve dans le Fajr et l'Asr. Donc, vous voyez bien que la spécificité a quelque chose en plus de la généralité. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit « Kama fi Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa » C'est le cas des prophètes qui ont été cités. Allah tabaraka wa ta'ala a cité les prophètes de manière générale et tout de suite après, il en a cité cinq. Ces cinq prophètes-là ont eu ce que les autres n'ont pas eu. Ils ont occupé un rang, une place chez Allah que les autres n'ont pas eu. Par exemple, Moussa a parlé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Les autres n'ont pas parlé. C'est une spécificité dans la généralité des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu tous les prophètes, a eu le voyage nocturne, et ainsi de suite. Il nous dit ensuite, وَتَارَةً لِكَوْنِ الْعَامِّ فِيهِ إِطْلَاقٌ قَدْ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْعُمُومِ كَمَا فِي قَوْلِهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Dans sourate al-Baqarah, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, il est possible aussi que ce principe soit retrouvé dans le Coran, c'est-à-dire le fait de citer une chose après avoir cité une généralité dans laquelle cette chose entrait déjà. Là, on a vu pas que parmi les raisons, il y a le fait de montrer l'importance de cette chose par rapport à aux autres choses en général. Mais il y a d'autres raisons aussi. Et parmi ces raisons-là, il nous explique qu'il y a le fait qu'il est possible que celui qui lise ce verset où on cite une généralité qui va être suivie d'une spécificité, qu'Allah Azza wa Jal a cité cela, car il est possible que la personne ne comprenne pas de la généralité. Ne comprenne pas que c'est général. Et que puisque c'est général, ça englobe plusieurs choses, alors Allah Azza wa Jal va citer tout de suite après des choses qui sont englobées par cette généralité. Pour que la personne comprenne que ces choses-là font partie de la généralité. Il nous donne en exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, les versets où il nous dit du Coran, Hudan lil muttaqin. Ce livre est une guidée pour les pieux. Qui sont les pieux? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Et l'invisible, c'est général. Parmi l'invisible, il y a le paradis, l'enfer. Il y a les anges, il y a les djinns. Il y a le jugement dernier, il y a les supplices ou le délice de la tombe. Alaykoum salam. Toutes ces choses-là relèvent de l'invisible, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la révélation. La révélation est pour nous quelque chose qui relève de l'invisible. Il se pourrait ici que le lecteur de ce verset ne comprenne pas en lisant Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible, que l'invisible est une généralité. Et qui dit généralité dit que cela englobe aussi la révélation. Pour cela, Allah Azza wa Jalla dit tout de suite après, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils accomplissent la prière, ils dépensent de ce que nous leur avons donné. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ceux qui croient en ce qui est descendu vers toi. Il parle au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui est descendu vers lui? Le Coran. Il croit en la révélation du Coran. Et il croit à ce qui est descendu avant toi, les autres livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah Azza wa Jal nous informe en fait que croire à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, et avant lui les autres livres, fait partie de la généralité qui a été citée avant, qui est la foi en l'invisible. Avez-vous compris cela? L'imam ibn Taymiyyah rahimallah nous dit فَقَوْلُهُ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Lorsqu'il nous dit Azza wa Jal, il croit ceux qui croient en l'invisible. يَتَنَاوَلُ الْغَيْبِ الَّذِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ. Cela englobe l'invisible auquel nous avons l'obligation de croire. لَكِنْ فِيهِ إِجْمَالٌ فَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الْغَيْبِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Mais la parole ici pourrait sembler vague. Elle pourrait sembler vague dans le sens où, ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui croient en l'invisible, nous n'avons pas d'indice nous permettant de savoir que croire en la révélation du Coran fait partie de la croyance en l'invisible. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala cite de manière générale la croyance en l'invisible et tout de suite après la croyance en la révélation des livres. Afin que l'on comprenne que la croyance en la révélation des livres fait partie aussi de la croyance en l'invisible. Donc il peut arriver que la généralité soit citée, mais la personne ne comprend pas que la spécificité qui est citée après fait partie de cette généralité. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit فَقَدْ يَكُونُ الْمَعْطُوفُ لَا يَشْمَلُهُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَتَنَبَّهُ السَّامِعُ إِلَيْهِ فَفِي عَطْفِهِ عَلَيْهِ تَنْبِيهٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَبَيَانٌ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْغَيْبِ مَا أُنْزِلَ عَلَى الرُّسُلِ. La chose qui a été citée en premier, il se peut que le lecteur du livre d'Allah Azza wa Jal ne capte pas, ne perçoive pas que la chose qui va être citée après en fait partie aussi. Alors Allah l'a citée. Il l'a citée pour que l'on sache que cela en fait partie. L'imam ibn Taymiyyah rahimallah continue et nous dit وَقَدْ يَكُنُ الْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْمُخْبَرِ بِهِ وَهُوَ الْغَيْبِ وَبِالْإِخْبَارِ بِالْغَيْبِ وَهُوَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Cheikh Salih Al-Fawzan explique cela. أَيْ يُؤْمِنُونَ بِالْخَبَرِ وَهُوَ مَا يُذْكَرُ عَنِ الْمَاضِ وَالْمُسْتَقْبَلِ وَبِالْمُخْبَرِ عَنْهُ وَهُوَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. On se contentera de ce que je vous ai cité. On se contentera de ce que je viens de vous citer. L'imam ibn Taymiyyah rahimallah continue et nous dit وَمِنْ هَذَا الْبَابِ. Fait partie de cela également. Cela de quoi il parle? Du principe là que nous sommes en train de développer depuis tout à l'heure. Quel est ce principe? Citer une généralité et tout de suite après citer quelque chose de spécial qui fait partie de cette généralité. Nous avons qu'Allah Azza wa Jal fait cela pour plusieurs raisons et nous avons vu ces raisons. Fait partie de ce principe-là, c'est-à-dire fait partie de citer une spécialité, une spécificité, après quelque chose de général, car les gens pourraient ne pas savoir ou comprendre que cette chose entre dans la généralité, ce qui va suivre ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi s-salah. Dans le sens du verset. Récite ce qui est révélé, ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. Allah Azza wa Jal nous dit ici Otlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récite ce qui t'est révélé du livre. Otlu. C'est un impératif, un ordre d'Allah. Le verbe c'est tala. On appelle cela at-tilawa. Ou alors tilawatul Qur'an. C'est souvent traduit par la lecture du Qur'an. Qu'est-ce qui est voulu par la lecture du Qur'an ? La plupart des gens pensent que la lecture du Qur'an, c'est-à-dire, je prends le livre, je lis avec mes yeux, uniquement. Ou alors, je récite le livre par cœur, uniquement. Et ça, c'est faux. Lire le livre signifie trois choses, comme nous dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah. Lire le livre signifie lire avec l'œil, mais aussi comprendre son sens et encore l'appliquer. Beaucoup de gens connaissent le Coran par cœur. Beaucoup de gens savent le réciter. Mais qu'est-ce qu'a dit le noble, le pieux prédécesseur, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lorsque la personne a dit, j'ai récité tout le Coran sans faire tomber une seule lettre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je n'ai fait aucune faute. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, il récite le Coran et il a fait tomber tout le Coran. Pourquoi? Il a dit, parce qu'il ne l'applique pas. Et quand Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous ordonne de lire le Coran, ce n'est pas que de la lecture avec l'œil qu'il parle. Lire, comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'appliquer. Allah m'a demandé de faire quelque chose. Aujourd'hui, lorsque tu vois la situation de certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles mettent sur leur mur des versets du Coran, des cadres, peut-être des chapitres entiers, des sourates entières du Coran. Lorsque tu lis ce verset, ce chapitre, il contient des ordres et des interdits. Lorsque tu vois la personne chez elle, elle fait le contraire. Est-ce que le Coran est là pour embellir le mur? Tu trouves aujourd'hui des gens qui récitent le Coran entier. Ils le connaissent par cœur. Ils ne font aucune faute dans la lecture. Mais dans leur vie, tu vois des choses qui contredisent le Coran. Eh bien, parce que il se pourrait, et c'est le cas en réalité, que des gens ne comprennent pas. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit de réciter le Coran, que cela implique d'appliquer le Coran, eh bien Allah Azza wa Jal, et donc d'accomplir la prière, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette généralité et tout de suite après la spécificité qui est et accomplit la prière. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve ce principe dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a cité une spécificité. Si Allah Azza wa Jalla n'avait dit que Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, récite ce qui t'est révélé du livre, il se pourrait que beaucoup de gens se contentent de lire Bismillahirrahmanirrahim et ils récitent. Mais Allah Azza wa Jalla a dit wa aqimis salah et accomplis la prière. Et accomplir la prière fait partie de la récitation du livre. Car la récitation du livre est une généralité qui englobe lire, comprendre et appliquer. Mais Allah a cité cette spécificité-là pour cette raison. Afin que les gens comprennent que cela en fait partie. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Laïs al-maqsoudu bittilawati huna mujarrad al-qira'a » Lorsqu'Allah nous ordonne de lire ici, il ne s'agit pas uniquement de lire à l'œil. Bal il maqsoudu biha al-ittiba'. Mais ce qui est voulu par cette lecture, c'est le suivi du Coran. Min talashay. On dit en arabe tala ashay, c'est-à-dire suivre la chose. Tala tilawa. Et c'est pour ça que dans le verset on retrouve وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا إِذَا تَبِعَهَا إِذَا جَاءَ بَعْدَهَا وَتَبِعَهَا. Et la lune, quand elle le suit. أي اتبعه فإقام الصلاة داخل في تلاوة الكتاب أي اتباعه ولكن عطفه من باب الاهتمام. Donc l'accomplissement de la prière entre dans la lecture du livre. Mais Allah l'a cité aussi pour en montrer l'importance et la spécificité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Ceux qui s'attachent ou ceux qui se cramponnent au livre et accomplissent la prière. C'est pareil. Ceux qui se cramponnent au livre. L'un d'entre nous va croire qu'il s'agit de le connaître par cœur, de ne faire aucune faute, de le réciter tous les jours. C'est une bonne chose, bien sûr. Mais pas uniquement cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a cité et ils accomplissent la prière. Pareil pour le verset « Alladhina atainahumul kitab » يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent d'une lecture réelle. Ce sont les gens de la vraie lecture. Qu'est-ce que c'est la vraie lecture? C'est de lire le Coran sans faire aucune faute et être un soufi, adorateur de tombe. C'est de lire le Coran sans faire aucune faute puis aller innover dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Non. Celui qui lit le Coran, qui connaît toutes les règles de récitation, et qui tombe dans les innovations, n'a pas lu le Coran comme Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes le 4 du mois de Rabi' al-Awwal, et dans 7 jours, les gens vont innover, ils vont célébrer la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'on va retrouver dans ces célébrations, des gens qui vont s'asseoir et réciter le Coran. Ils le connaissent par cœur, ils ne vont faire aucune faute dans la récitation, mais pourtant, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas lu le Coran. Pourquoi? Parce que celui qui a lu le Coran est celui qui l'a compris et appliqué. Or, en innovant dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'applique pas les ordres d'Allah de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser toute contradiction d'avec sa guidée et sa voix. Donc voilà le sens de lire le Coran. Le lire certes, mais aussi le comprendre, et après l'appliquer. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri wa iqamatu s-salati dakhilatun fi qawlih fa'budni fa's-salatu min al-ibadah. وذلك لأهمية الصلاة ولأنها أعظم العبادات العملية. Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au prophète Moussa alayhi salam, lui a dit dans le sens du verset, c'est moi Allah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté moi. Il dit dans le sens, adore-moi donc et accomplis la prière pour mon rappel. Quand Allah azza wa jal a ordonné de l'adorer, la prière en fait partie. Et pourquoi est-ce qu'il a cité la prière particulièrement? Parce que la prière a une grande importance dans la généralité qui est l'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dans le sens du verset, ô vous qui avez eu la foi, faites preuve de piété envers Allah, obéissez à Allah et délaissez ses interdits, et prononcez des paroles justes. N'est-ce pas que celui qui fait preuve de piété envers Allah va prononcer des paroles justes? Mais la parole juste dans la piété a une très grande importance. Donc, la parole juste, qui est une spécificité, dans la piété, qui est une généralité, a une grande importance chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jal a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi alwasila ay utlubu ma yuqarribukum ila Allah falwasilatu hiya at-ta'ah التي تقرب من الله وهذا داخل في قوله اتقوا الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset « Ô vous qui avez eu la foi, faites preuve de piété envers Allah en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et recherchez le moyen de se rapprocher de lui. » Recherchez le moyen de se rapprocher de lui par son obéissance. Fait partie de la piété, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla nous ordonne la piété généralement et de rechercher le moyen de se rapprocher de lui spécifiquement. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jalla dit Ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Faites preuve de piété envers Allah et soyez avec les véridiques. Alaykoum salam. Celui qui fait preuve de piété envers Allah fera partie des véridiques. Ainsi, les véridiques ont été cités ici en raison de l'importance de la véracité, spécialement dans la piété qui est une généralité. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Adore-le donc et place en lui ta confiance. C'est la même chose encore. Placer la confiance en Allah est une adoration spécifique. Elle a un grand rôle dans la généralité qui est l'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout ce qu'a cité l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui a été expliqué par le Cheikh Al-Fawzan. Hafidhahullah. Il nous dit ensuite à Cheikh Salih Al-Fawzan, donc je vais pour la continuité, je vais quand même lire ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa qawluhu walladhina yumassikuna bil kitabi wa aqamu as-salah wa tilawatu al-kitabi hiya ittiba'u kama qala Ibn Mas'ud fi qawlihi ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi qala yuhallilunahu halalahu wa yuharrimunahu harama ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله. Placer sa confiance en Allah et lui demander l'aide fait partie de son adoration. لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. Et comme on ne peut adorer Allah qu'avec son aide, on a cité la demande d'aide à Allah Azza wa Jal après avoir cité l'adoration, c'est-à-dire dans le verset إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous amène maintenant à la conclusion. إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. Si tout ceci est clair, si tout ce qui vient de passer est clair, alors sachons que la créature c'est l'homme. L'homme, le serviteur, devient de plus en plus complet lorsqu'il applique la servitude d'Allah dans toutes ses composantes. Plus le serviteur applique l'adoration d'Allah dans toutes ses catégories, dans toutes ses sortes, plus il diversifie et il les applique toutes, plus il devient un serviteur d'Allah digne de ce nom et complet dans sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus il ajoute dans sa servitude de la servitude, plus il se fait serviteur d'Allah, plus il est élevé par Allah et son rang est meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui croient que le serviteur devient complet lorsqu'il sort de la servitude, c'est le cas du soufisme, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, ou qu'il est meilleur pour lui de sortir de la servitude, il fait partie des gens les plus ignorants et des gens les plus égarés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que l'on développera, incha'Allah ta'ala, à la prochaine assise. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم